Hello, Mortimer. Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur.
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous
merci.
Parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillant numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous proposons ce soir une émission spéciale réalisée par Christian, entièrement consacrée à la manga, la bande dessinée japonaise. Nous découvrirons que ses racines plongent très profondément dans l'histoire du Japon jusqu'au 11e et 12e siècle, époque des emakimono, rouleaux illustrés racontant des histoires. Nous apprendrons que le chiffre d'affaires de la manga représente 17 fois celui de l'industrie américaine du comics et 35 fois celui de toute la bande dessinée européenne. Nous écouterons deux spécialistes, le plus illustre des dessinateurs français, Moebius, qui a découvert la BD japonaise bien avant le grand public occidental, et un libraire que nous connaissons bien dans Captivant, Hervé Le Gall, propriétaire des librairies BD Flash de Rambouillet et de Chartres. Mais commençons par un extrait de Nausicaa, la vallée du vent, le premier film de Hayao Miyazaki que ce dernier avait réalisé sous forme de bande dessinée avant de le porter à l'écran.
Si d'un seul coup d'aile la petite Nausicaa a sauvé le grand Yupa.
Ah, quelle belle vallée. Son calme, sa sérénité apaisent le cœur.
Raconte-moi ce voyage, tout s'est bien passé?
Ah, c'était horrible. Dans les contrées du sud, la Fukai a englouti deux nouveaux royaumes. Cette maudite forêt ne cessera-t-elle donc jamais de s'étendre? Où que j'aille, le spectacle est le même. Guerre et famine, une ombre sinistre plane sur la terre. Pourquoi les autres royaumes ne peuvent-ils pas vivre heureux comme vous?
Si nous vivons heureux dans cette vallée, c'est parce qu'elle est balayée par les vents marins. Nous sommes protégés. La Fukai ne peut nous atteindre.
Yupa, mon ami, le temps est peut-être venu pour toi de t'installer ici définitivement. Tu vois dans quel état je suis? Ta présence chez nous ferait la joie de tous.
Il n'acceptera jamais. Notre cher Yupa doit d'abord trouver ce qu'il cherche depuis toujours. Tel est son destin.
Est-ce vraiment mon destin?
Around.
vivant.
1 000 milliards de 1 000 millions de 1 000 chevaux.
Marc Dacier.
C'était Alphaville avec la chanson Big in Japan. En effet, nous vous proposons ce soir une émission entièrement consacrée à la bande dessinée japonaise, la manga. On peut considérer les emakimono abondants au XIe et XIIe siècle comme étant à l'origine de la BD au Japon. Un emakimono était composé de dessins peints sur un long rouleau et qui racontait une histoire, chaque motif apparaissant au fur et à mesure que l'on déroulait le rouleau. Mais par la suite, et ce jusqu'au XIXe siècle, les illustrateurs japonais ont abandonné ce système de rouleaux pour se contenter d'estampes à une seule image, les ukiyo-e, et de livres comiques, les kazazoshi. Au début du XXe siècle, sous l'influence des revues commerciales américaines, la bande dessinée fait son apparition dans les principaux journaux japonais. C'est le vrai début de la manga. Dans les premières décennies, les séries qui rencontrent le plus de succès se déroulent dans des univers merveilleux et fantastiques. Shōshan no Boken de Katsuishi ou Speed Taro de Shishido. En 1931, Suiyo Tagawa lance Norakoru, une BD animalière dont le héros, un chien noir errant, s'engage dans l'armée. Indiscipliné et farceur, Norakoru fait enrager son chef, le capitaine Bulldog, amuse un très large public et sera à l'origine de la vocation de nombreux mangaka, auteurs de BD japonais. En 1946, la dessinatrice Machiko Hasegawa crée Sazae-san, une série humoristique décrivant le quotidien d'une japonaise moyenne qui va devenir la plus populaire des BD du pays. Au tout début des années 50, un jeune mangaka doté d'une imagination aussi phénoménale que sa force de travail fait son apparition avec Jungle Tatei, l'histoire d'un lion blanc, et Tetsu Anatom, celle d'un petit robot. Ce jeune créateur se nomme Osamu Tezuka. Influencé par son compatriote Fukujiro Yokoi, le pionnier du roman graphique et de la BD de science-fiction, mais aussi par Walt Disney, Tezuka va devenir non seulement le pape de la manga, mais aussi le pionnier du dessin animé japonais. En 1961, tout en continuant à produire des planches de BD par centaines, il crée un studio d'animation, Mushi Productions, pour adapter lui-même les aventures de son petit robot Tetsuan Atom. Celui-ci débarquera aux États-Unis sous le nom d'Astro Boy.
Dans un laboratoire secret, un des plus grands génies scientifiques de tous les temps travaille sur sa plus incroyable création.
Bonjour, fiston.
Papa?
Comment te sens-tu?
Un peu bizarre.
Rencontrer un être conçu pour l'aventure.
Wow, génial!
Astro Boy, préparez-vous à décoller.
Le style de bande dessinée initié par Osamu Tezuka, que l'on peut qualifier de cinématographique, va devenir celui de tous les mangaka. Un groupe appelé « Nouveau clan de la bande dessinée » met au point de longues BD dont la structure s'apparente à celle de films. Otaro le fantôme de Fujio Fujiko, Bakabon de Fujio Akatsuka, Cyborg 009 de Shotaro Ishimori. Des séries d'aventures à succès font leur apparition, Kamuiden de Sanpei Shirato, l'histoire d'un jeune rebelle de l'époque Tokugawa, il y a plus de 200 ans, Golgo 13 de Takao Seito, qui raconte les aventures d'un tueur professionnel international, ou encore Kozure Ookami de Goseki Kojima, la saga d'un samouraï solitaire. Comme on vient de le voir, dans les années 60, la manga a su sensibiliser directement son public en intégrant les codes du cinéma. Tout de suite, on écoute la chanson du film Porco Rosso avant d'écouter Moebius nous raconter sa découverte de la manga.
Toki ni wa mukashi no hanashi wo shiyou ka kayoi nareta nashimi no ano mise Maronie no namiki ga madobe ni miete ta kohi wo ippai de 1日見えない 明日をむやみに探して誰もが希望を託した揺れていた時代の熱い風に吹かれて体中で時を感じたそうだね道端で眠ったこともあったねどこにも行けないみんなでお金はなくてもなんとか生きてた貧しさが明日を運んだ小さな下宿屋に幾人も押しかけ朝まで騒いで眠った嵐のように毎日が燃えていた息が切れるまで走ったそうだね一枚残った写真をご覧よひげ面の男は君だねどこにいるのか今ではわからない友達も幾人かいるけどあの日のすべてが虚しいものだとそれは誰にも言えない今でも同じように見果てぬ夢を描いて走り続けているよねどこかで
Captivant, captivant, captivant.
Monsieur, s'il vous plaît, quelques mots, je vous prie.
L'interview.
Nous parlons ce soir de la BD japonaise et pour nous éclairer sur les origines du phénomène manga, l'un des mieux placés n'est autre que le grand maître de la bande dessinée française, Jean Giraud alias Moebius. En 1995, il racontait au micro de RVE sa découverte de la BD japonaise.
J'ai découvert les mangas quand j'étais au Japon il y a quelques années. Je peux dire que là vraiment... Professionnellement, j'ai été mis dans une position avantageuse, c'est-à-dire que j'ai pu prendre connaissance du phénomène, on peut dire, avant pratiquement tout le monde, sauf quelques personnes qui elles-mêmes avaient des accointances avec le Japon. Et quand je suis revenu, j'en ai parlé à beaucoup d'amis, je suis revenu avec des albums, enfin des mangas, je leur ai montré. Je dois dire que de la part des professionnels, il y a une curieuse attitude qui est en même temps d'être admiratif. Enfin, c'est pas une curieuse attitude, c'est une attitude normale. On trouve que c'est bien. Et puis bon, on continue à faire ce qu'on fait. Tu vois, c'est pas parce que d'un seul coup un truc bien arrive d'ailleurs qu'on va se mettre à, disons, à infléchir sa propre trajectoire. Ou alors, si la trajectoire s'infléchit, c'est qu'il y a d'autres éléments qui se sont mis en place, comme une demande du public ou des choses comme ça, ou alors un coup de foudre. Mais quand un dessinateur est mûr, les coups de foudre, ils sont parfois de plus en plus rares. On vit sur les coups de foudre antérieurs. Par contre, des jeunes dessinateurs ont ressenti le coup de foudre du manga et se sont mis à travailler, genre comme Marini ou même d'autres. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent avec des dessins qui sont des copies pures et simples ou des interprétations du style japonais. Bon ou pas bon, c'est très difficile de savoir, hein. Les choses ont leur cours. Mais c'est vrai que le manga, moi, je trouve, enfin, le style japonais, l'approche japonaise de la bande dessinée est très très intéressante. Ça amène de nouvelles thématiques, des ouvertures nouvelles sur l'interprétation graphique du monde. Il y a aussi, ce qui n'est pas rien, une nouvelle approche éditoriale, des nouvelles pistes. Bon, alors s'il faut voir aussi, c'est que le manga japonais, c'est un énorme monument avec différents strates et comme une pyramide, on pourrait dire, comme une pyramide. Bon, il y a une base populaire d'exploitation forcenée de tout le système, et puis une progression vers une espèce de sommet interchangeable où c'est un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, mais où il y a une bagarre pour la pointe de la pyramide, et où là on trouve des auteurs d'une grande qualité, quoi. Alors il faut comparer ce qui est comparable. Quand on compare la bande dessinée européenne, il faut mettre en face des éléments qualitativement compatibles. Hein, les meilleurs japonais sont, disons, aussi bons que les meilleurs européens ou les meilleurs américains, et les pires japonais sont pas pires ni meilleurs que plutôt meilleurs d'ailleurs souvent que les pires européens ou les pires américains. Je veux dire, il y a une espèce de communauté dans l'ensemble. Je me suis trouvé en contact avec ce monde du manga du fait des japonais eux-mêmes, les auteurs, c'est-à-dire que je me suis retrouvé devant les auteurs japonais, un peu comme je me retrouve avec les auteurs français ou américains, c'est-à-dire que tout le monde connaît tout le monde. Hein, ils se documentent avec empressement et sympathie auprès des productions planétaires. Que ce soit, eux, ils s'intéressent à ce que font les Chinois, ils s'intéressent à ce que font les Hindous, à ce que font les Américains et les Européens, bien entendu. Et c'est certain que la bande dessinée française a une réputation planétaire, comme étant une des plus fécondes, les plus intéressantes. Mais ils connaissent bien sûr tous les super-héros, patati patata. Hein. Mais je me suis retrouvé devant de jeunes auteurs qui me disaient, qui m'aimaient, etc. Et moi, je regardais leurs trucs, je trouvais que c'était formidable. Puis il y avait ce rapport, impossible d'ailleurs, entre auteurs, qui fait qu'on se regarde et puis on voudrait se manger l'un l'autre par amour ou par s'assassiner, je sais pas, par dépit ou je sais pas quoi, mais on reste devant notre enveloppe hermétique et on sait pas quoi dire, en fait. Mais j'ai quand même rencontré des gens qui me considéraient comme un élément important de la bande dessinée, des gens comme Otomo, comme Miyazaki, et qui pour moi étaient des dieux, c'était les meilleurs.
C'était Moebius qui, en 1995, raconter à notre micro sa découverte de la BD japonaise. Tout de suite, on écoute les Fatal Picards.
La calandre est super enfoncée et la peinture a bien morflé. Le moteur gauche s'est fait la malle, on dirait un cartable pédale. Comment je vais dire ça à papa? On s'en prive ou non plus de moi. Le rétro gauche est tout pété. Oh putain, Goldorak est mort, impossible de leur démarrer. Oh là là, Goldorak est mort, c'est sûr mon père il va me tuer. Il faut que j'arrive à joindre Alcor, je crois que le Delco est pété. Allez des couilles, j'suis prince de fort, je vais quand même pas me mettre à chialer. Je me revois bien sortir de la boîte, après sur la petite route des boîtes. J'ai vu des boules et le lapin, j'ai lancé les fulgures au poing. Pourtant c'était bien au Xénon, Vénusia était trop canon. Elle s'est cassée avec Bioman, et maintenant je me prends un platane. Et voilà Goldorak est mort, impossible de leur démarrer. Et ben ouais, Goldorak est mort, c'est sûr mon père il va me tuer. Comment je m'ai mangé le rebord et le rail de sécurité, sentait que je préférais être mort au contrôle technique là c'est râpé. Madame, pardon de vous déranger, est-ce que je pourrais téléphoner? Ouais, je suis habillé marrant, pour le Japon je fais 0-1 devant. Allô papa, j'ai un pépin, je suis entre Terrier et Amiens. Ouais, je sais, j'ai pas pris mon portable. Ah, ok, ok, il est sur la table, écoute, écoute. Écoute, papa, il faut que je te dise. Oui, je sais, j'ai pas pris ma carte grise. Bon, y'a des trucs plus importants. Putain, c'est bon, passe-moi, maman. Quoi, j'ai jamais vu de maman. Mais tu me l'avais pas dit avant. Je croyais que tu me cachais ma mère. Parce que c'était le gros stratège. Et voilà, Goldora qui ment. Impossible de leur démarrer. Et ben oui, Goldora qui est mort. Il traise du câble à remorquer. C'est bon, me traite pas de tête de mort. J'ai c'est si cher pour réparer. Faut demander des pièces à Albator. Et il fait raquer l'enculé. Goldora qui est mort.
Captivant, 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 captivant.
Ils sont fous ces Romains.
Marc Dacier.
Nous vous proposons ce soir une émission spéciale entièrement consacrée à la bande dessinée japonaise, qui est, de très loin, la plus importante du monde. En 1994, un article paru dans la presse professionnelle de l'édition révélait que le chiffre d'affaires de la manga représentait 17 fois celui de l'industrie américaine du comics et 35 fois celui de toute la bande dessinée européenne. Quel est le secret de cet incroyable et phénoménal succès ? Au pays du soleil levant, la manga s'adresse à tous les publics, les filles, les garçons, les adultes, les employés de bureau. Depuis les années 60, l'édition génère une quantité industrielle de produits dérivés, jouets et gadgets, jeux vidéo et bien sûr dessins animés, cinématographiques ou télévisés. En France, le phénomène manga est arrivé par la télévision, d'abord timidement dans les années 70, avec les dessins animés Le Roi Léo et Astro le Petit Robot adaptés des BD d'Osamu Tezuka, puis dans les années 80 avec Goldorak, Candy, Les Chevaliers du Zodiaque, Capitaine Flamme ou encore Albator.
Il y a beaucoup de blessés ?
Non, non, il n'y a rien de vraiment sérieux, mais regardez, la barre en a pris un coup. Hein.
La salle des machines a été endommagée.
Envoyez de la fumée, faisons-leur croire qu'on est touché.
Oh, pourquoi ?
Sois tranquille. L'âme du vaisseau est saine et sauve. Et je réserve à nos amis Sylvidre une sacrée surprise.
Laquelle ?
On va bien rigoler, je crois.
Regardez. L'Atlantis est immobilisé. C'est une occasion à ne pas manquer. Tous les appareils à l'attaque!
J'ai gagné. Elles ont sous-estimé notre puissance et attaquent dans un ordre dispersé. Préparez-vous à la riposte!
Dans les années 1980, craignant une perversion de la jeunesse française, certains intellectuels ou responsables politiques, tels que Ségolène Royal, partent en guerre contre les dessins animés japonais. Mais les enfants et les adolescents adorent ces dessins animés et sollicitent l'arrivée de la manga dans les librairies. Les premières tentatives de traduction de BD japonaises, à partir de 1983, sont isolées et font l'usage d'une traduction antérieure en langue anglaise. Et puis en 1991, l'éditeur Jacques Glénat, convaincu par un voyage au Japon, lance à 120 000 exemplaires le magazine Akira en kiosque. Le succès est énorme. Poussant son avantage, Glénat persévère. Il s'aperçoit que le personnage d'Akira Toriyama, Dragon Ball Z, fait des scores remarquables à la télévision. Le succès en librairie ne se fait pas attendre. Chaque année, Dragon Ball Z squatte le top 10 des meilleures ventes de la BD en France. Et le style manga commence à influencer certains jeunes auteurs européens, même s'ils s'en défendent parfois, à l'instar d'Enrico Marini.
Dans le manga, ce qui me plaisait, c'était il y avait des choses bien, comme par exemple Akira, que je compte parmi les meilleurs. Je regardais la technique, j'essayais de trouver des choses bien, et il y en a des choses bien. Je pense qu'on peut reprendre des choses dans le manga, mais bon, faut pas exagérer, faut pas, c'est pas non plus le truc génial. Je trouve que il y a des bonnes choses dedans, et donc on peut avoir du plaisir en lisant du manga. J'ai beaucoup d'influence de la BD européenne aussi, donc plus que du manga. Mais je pense que ça, je l'avais toujours, Mais peut-être j'étais un des premiers qui a utilisé aussi un tout petit peu un style manga dans mes BD. Et maintenant, bon, je me suis un tout petit peu débarrassé quand même.
Le succès remporté par l'éditeur Glénat dans le secteur des mangas a bien sûr donné des idées à ses concurrents. Dargo avec son label Kana, Gélu, Delcourt, Casterman, Soleil entrent dans la danse. En tant que seul éditeur-distributeur indépendant, Tonkam se distingue. Il démarre avec succès l'édition d'albums en 1994 avec Video Girl High. En 1996, Tonkam est le premier à publier des mangas chinois avec Cyber Weapon Z d'Andy Seto et s'applique à proposer, comme au Japon, un catalogue segmenté, lançant notamment le premier en France un genre florissant, le shoujo manga, qui regroupe des BD réalisés par des femmes pour les filles. C'est maintenant dans le monde entier qu'on lit des mangas, un phénomène certes envahissant, mais qui a enrichi le panorama de la BD mondiale et a créé un nouveau public, celui des adolescentes et adolescents. Tout de suite, on écoute le groupe R avec la chanson « Mère du Japon ».
Des flashs.
Par Horus, demeure.
Dans la galerie Châle, à Rambouillet.
Par Horus, demeure.
Le spécialiste BD de la région.
Par Horus, demeure.
Pour conclure cette émission spéciale entièrement consacrée à la bande dessinée japonaise, je reçois le libraire de Captivant, Hervé Le Gall. Ces deux boutiques BD Flash à Rambouillet et à Chartres disposent de vastes rayons de mangas. Hervé, bonsoir. Les mangas représentent quel pourcentage de ton chiffre d'affaires ?
Les mangas représentent environ un tiers de notre chiffre d'affaires, aussi bien en neuf qu'en occasion, et aussi bien sur le lectorat jeune, ado ou adulte.
Il semble que la part de marché de la BD japonaise dans les librairies françaises ait cessé d'augmenter. Est-ce que tu l'as constaté ?
Tout à fait, il y a une stagnation. Tout simplement, on voit que le nombre de titres a explosé ces dernières années. Le lectorat, lui, s'est accru, mais dans des proportions beaucoup moins importantes. Ce qui fait qu'il y a une véritable saturation des lecteurs par rapport au nombre de titres qui sort. Et ce n'est pas forcément dû à une qualité plus basse. Il y a toujours le même pourcentage, je dirais, de titres bons, moyens, excellents et de temps en temps un petit bijou. Mais simplement, le budget des lecteurs, vu que le nombre n'a pas grandement changé, reste bloqué à un certain niveau et on sent qu'il y a une saturation des titres. Les gens font des séries, les séries qu'ils aiment, ils les suivent et ils passent souvent à côté de très très bonnes nouveautés en attendant d'avoir fini leur série. Souvent, ils notent des séries qui peuvent les intéresser pour le futur, parce que souvent de bons titres sortent. Le problème, c'est qu'ils attendent d'avoir fini les séries qu'ils ont en cours pour attaquer de nouvelles séries, et quelquefois ça peut prendre 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi.
et quels sont les titres que tu vends le plus ?
Les titres que je vends le plus actuellement sont Fairy Tail, Naruto, Full Metal Alchemist, One Piece, le nouveau Urasawa, plutôt, une série qui est plutôt seinen, alors que les titres que je viens de citer précédemment étaient plutôt des titres shonen, donc des titres plutôt d'aventure qui sont plutôt pour les ados. Il y a Doubt aussi, qui est une série un petit peu thriller, pareil, qui convient à un public plutôt ado-adulte, qui commence à bien marcher. Ikigami, Préavis de mort, Vinland Saga, donc des titres qui sont plus adultes. Donc dans ce top 10, il y a au moins 4 titres qui ne visent pas seulement un public adolescent, là où on a souvent les très très grosses sorties. Dragon Ball était l'archétype des shonen d'action et d'aventure qui ont cartonné et qui marchent toujours très fort. Mais on voit de plus en plus de titres visant un public ado-adulte, donc visant un public plus mûr, avec des scénarios souvent plus durs, qui arrivent dans les très très bonnes ventes. Ça veut bien dire qu'il y a un public qui mûrit, un public qui lisait du manga il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qui maintenant se retrouve à avoir entre 20 et 35 ans, voire certains 40 ans. Et évidemment, ils ne recherchent pas la même chose en manga que ce qu'ils lisaient quand ils étaient jeunes, enfants ou jeunes ados. Et c'est très intéressant parce que la qualité des titres qui ont été traduits par les éditeurs ont suivi cette tendance. Ils ont suivi leur lectorat, et on trouve aussi bien de très grands titres en science-fiction, en fantasy, en aventure, en polar, en thriller, en récit historique aussi, avec de très très grands auteurs comme Keizo Koke qui a fait Lone Wolf and Cub ou Hirata, qui sont deux des plus grands auteurs de manga historique au Japon.
Quelle série conseillerais-tu à quelqu'un qui n'a jamais lu de manga ? Tu vas me dire que c'est impossible.
C'est très très difficile de conseiller comme ça un titre par rapport pour quelqu'un qui n'a pas lu de manga. Tout dépend si c'est déjà un lecteur de bande dessinée ou pas. S'il vient directement du roman, ça va être un peu plus dur. S'il lit déjà de la bande dessinée, il y a des grands classiques, mais tout dépendra du type de lecture qu'il aime. Si c'est un lecteur de polar, de thriller, de roman d'aventure classique, ou s'il aime la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Si c'est un jeune lecteur de 7 à 10 ans, un lecteur ado ou un lecteur adulte, parce qu'on a des titres très divers pour chacune, entre guillemets, parce qu'au Japon c'est très sectoriel, et on a vraiment des titres qui visent un public très précis, qui sont faits pour ça, limite marketés pour ça, et ils ont vraiment fait des cases au Japon, avec les lecteurs sont mis dans des cases, et on voit quelquefois des titres extrêmement pointus, qui visent un public de seulement quelques dizaines de milliers de lecteurs, faits pour ces quelques dizaines de milliers de lecteurs. Donc je dirais que le choix en manga est aussi divers que le choix qu'on peut avoir en BD franco-belge, donc tout dépend.
Eh bien Hervé, merci de tes réponses éclairées, c'est la fin de ce numéro spécial de Captivant consacré à la BD japonaise et réalisé par Christian. On se quitte avec la bande originale du film Princesse Mononoke composée par Joe Hisaishi. Bonsoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine.